7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, faut-il cacher ses émotions au travail ? Ça peut être une tristesse dans sa vie privée, mais ça concerne aussi le stress, la colère ou le ras-le-bol des conditions de travail. Et cette question des émotions, tout le monde se la pose forcément, de l'employé jusqu'au manager qui a intégré finalement cette idée que la maîtrise de soi, le contrôle de ses émotions, eh bien, c'est le signe du professionnalisme. Une personne qui peut faire face à toutes les situations finalement. Mais dans les coulisses des entreprises, on appelle quand même des consultants pour rendre les salariés plus heureux. Alors qu'en disent ces spécialistes du malaise au travail ? Se blinder et en même temps paraître humain, encore une injonction paradoxale. Nous allons en parler avec vous, Julia de Funès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et vous publiez avec l'économiste Nicolas Bouzou La comédie inhumaine aux éditions de l'Observatoire. La scène, ça se passe dans les entreprises. Tout simplement, il y a de quoi faire, il y a de quoi raconter, observer. Anne-Charlotte Vuccino, bonjour.
Bonjour.
Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Vous avez bâti votre start-up yogiste sur le yoga en entreprise. On peut se détendre partout, même sur sa chaise de bureau ou dans un studio de radio. D'ailleurs, il y aura forcément, vous nous donnerez des conseils pendant le direct. Vous avez des bureaux, vous, à Paris, à Londres, à São Paulo et tout récemment à Singapour. Et vous publiez aussi, comme un yogiste, la méthode yoga pour être bien partout, même au bureau, je la montre pour ceux qui nous regardent en même temps puisque l'émission est filmée pendant le direct. Et je suis sûre qu'Anne-Charlotte va nous montrer des exercices. Aurélie Janté, sociologue, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du travail, Université Sorbonne Nouvelle, et vous publiez Les émotions au travail aux éditions CNRS. Et c'est grâce à votre ouvrage qu'on a eu l'idée de cette émission. On s'est dit, mais bien sûr, tout le monde se pose cette question, voire parfois tous les jours, jusqu'où contrôler ses émotions. Et quant à vous, les voisins et les voisines, dites-nous ce que vous faites de vos émotions au travail. Vous les planquez au vestiaire ou bien vous venez comme vous êtes, racontez-nous au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro de téléphone WhatsApp, vous nous appelez, c'est anonyme, c'est gratuit. Vous pouvez aussi poster des messages écrits, mais ne postez pas de messages audio. Ça y est, l'émission a démarré en direct et on a envie évidemment de vous parler de vive voix.
Je te déteste, tu m'entends ? Je te déteste, je te méprise, je te hais !
Toujours des sentiments excessifs, hein ?
Eh oh, attendez, qu'est-ce que j'ai fait, c'est dégueulasse.
Mais je te l'ai déjà dit, je ne supporte plus ta moustache.
Doucement, Ménard.
Je vous demanderai de contrôler ses émotions, si émotions il y a, hein.
Trop de sensations, j'essaie de contrôler, mais ça déborde.
Mais non, mais c'est un malentendu, je suis juste venu dans son bureau pour lui emprunter son agrafeuse, c'est pas...
Berthier, tu comprends pas que tu m'as fait craquer, que j'ai envie de faire ma vie avec toi.
Je suis désolé pour tout à l'heure, j'ai été affreusement maladroit.
Je me suis dit, c'est l'endroit qui est pas bon.
Je t'ai déjà dit que je t'aimais.
Je t'aime.
Merci.
Voilà, toute une palette d'émotions. Hein. C'est quand même pas aussi agité que ça au travail, non ? Dans une journée de travail dans l'entreprise. Non, vous, Aurélie Janté, vous semblez dire que ça peut aller jusque-là ?
Bien sûr, ça peut aller même très très loin, puisque on met beaucoup l'accent sur les émotions négatives, sur le mal-être, sur le burn-out, la dépression, le suicide. Ça peut aller jusque-là, bien sûr, le meurtre aussi. Heureusement, c'est pas tous les jours, mais bien sûr, on est traversé d'émotions au travail, parce que à la fois, le travail nous fait quelque chose, nous transforme, nous procure des émotions, que ce soit la peur, par exemple, l'ennui aussi, parfois, ou c'est le plaisir, évidemment, de rendre service, de soigner, etc. Et puis, c'est aussi une motivation, c'est-à-dire que... Parce qu'on arrive avec des désirs, l'envie de bien faire, de faire du beau travail, etc. C'est aussi ça qui nous fait travailler.
Les émotions peuvent être source de motivation, finalement, Julia de Funès.
C'est la même racine étymologique, d'ailleurs. Émotion et se mouvoir, c'est exactement la même étymologie. Mais en entreprise, ce que je remarque, c'est qu'il faut tout gérer. dont les émotions, bien sûr. Il faut gérer son job, ses émotions, son stress, ses compétences, ses enfants, son boulot. Enfin, ça devient... On est dans une ère d'hypergestion. Et en même temps, quand on est en entreprise, il ne faut pas montrer ses émotions véritablement authentiques. Il faut faire signe. Par exemple, les formations où on doit être fun, on doit être cool, on doit s'amuser. On fait signe qu'on rit, on fait signe qu'on s'amuse. Mais ce ne sont pas des réelles émotions, au sens elles ne sont pas forcément authentiques et véritablement ressenties. Il y a une sorte de mimétisme émotionnel dans l'entreprise qui engourdit les esprits et qui fatigue les femmes et les hommes de l'entreprise.
Je vous lis le message de Marguerite qui a été postée de Douala au Cameroun. Elle dit « Moi, je pense qu'il faut cultiver la maîtrise de soi et savoir en tout temps se contenir. On ne s'ouvre pas à n'importe qui. Si vous parlez de vos émotions à vos collègues, eh bien, vous devenez un sujet de raillerie. Mais pour ce qui est de la joie, en raison d'une promotion, du succès des enfants, d'un mariage, vous devez leur en parler, c'est important. Bon, en gros, ma vie est géniale et quand c'est pas le cas, censure. »
Il y a effectivement des règles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exprimer n'importe quelle émotion, n'importe comment et à n'importe quel moment. Il y a des règles de sentiment.
Parce qu'il y a un risque, c'est ce que dit
Marguerite. Parce qu'il y a des normes, parce que les émotions sont sociales. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les considérer comme des choses internes, individuelles, singulières. Elles sont socialement déterminées et régulées par des normes sociales. On apprend, quand on est enfant, à ressentir certaines émotions qui sont appropriées à certains contextes ou non appropriées.
Sinon, la vie en collectivité serait juste invivable sur Terre.
Quand même. Après, il y a un autre excès, c'est qu'il y a des injonctions sociales à être heureux et à montrer sa vie comme quelque chose de très sympa.
Ça, c'est Instagram, hein, c'est ça.
C'est tous les réseaux sociaux. Et c'est surtout dans les entreprises. Il y a ou même dans notre société française, là, pour le coup, je ne sais pas si c'est la même chose en Afrique, par exemple, mais l'injonction à être heureux, il faut absolument être heureux. On n'est même plus dans du bonheur, on est dans du bonheurisme. Et le pauvre type malheureux, déjà il est malheureux à cause de son malheur, mais doublement malheureux parce qu'en plus il culpabilise de ne pas être heureux. Ça devient quelque chose, double peine.
Je vous lis le message de Souleymane. Après, on prendra un auditeur qui nous appelle de Dakar. Souleymane est à Koudougou au Burkina Faso. Il dit on peut parler de ses émotions si les collègues sont prêts à vous donner des solutions. Oui, ça c'est vrai que... Et on dit que ça soulage en partie, mais peut-on réellement cacher ses émotions? Peut-on travailler sans émotions?
Je pense que c'est très dangereux de cacher ses émotions et de pas travailler dessus, parce que de toute façon, c'est une bombe à retardement. Et que si vous n'arrivez pas à expulser ce stress, ces tensions que vous avez, ou ces rancœurs parfois, ou même à exprimer cette joie, elles vont se traduire dans votre corps. Ça va se traduire, vous savez, par la lombalgie qui arrive bizarrement après une grosse période de stress ou une période d'émotion intense.
Et là, c'est là qu'il faut faire du yoga avec vous.
Il faut faire du yoga ou il faut faire ce que vous voulez pour, en tout cas, faire en sorte que ces pics de stress soient compensés ensuite par des redescentes et des relaxations, ou en tout cas le but du jeu, c'est que tout ça soit extériorisé, qu'on laisse pas le corps au vestiaire et qu'on ne se dise pas que cette cocotte minute avec le couvercle bien vissé dessus, elle peut durer ad vitam aeternam.
Allez, on part au standard, je vous donne le numéro de téléphone, les voisins et les voisines, 33 1 84 22 71 71. Faut-il cacher ses émotions au travail? Karim nous appelle de Dakar. Bonjour Karim, vous avez 31 ans.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes en direct, on vous écoute Karim. Alors, est-ce que vous êtes concerné personnellement par le sujet?
Oui, effectivement. Donc, c'est Karim, je suis coach en développement personnel.
Ah oui.
Et en plus, voilà, je suis consultant, voilà, dans un cabinet qu'on appelle OPAF Afrique. Donc, j'interviens souvent en intelligence émotionnelle. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en entreprise, il faut savoir gérer ses émotions. Parce que si vous gérez vos émotions, vous pouvez avancer à l'interne et faire preuve de capacité d'intelligence émotionnelle. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle? C'est la capacité à reconnaître et à gérer l'émotion. Vous savez, parce qu'une émotion qu'on maîtrise nous rend sujet. Mais une émotion qui nous échappe nous rend objet. Mm-hmm. C'est pourquoi la nécessité de gérer l'émotion s'impose.
Mais voilà. Quelles sont les demandes de vos entreprises, des entreprises qui sont clientes, qui vous demandent d'intervenir sur la gestion des émotions? C'est quoi ça, qu'est-ce qu'elles vous disent, vos entreprises clientes? Moi, je suis toujours étonnée. Voilà. Hein. Elles vous disent « Oh là là, c'est la bagarre chez nous, on n'arrive pas à gérer les équipes ». Pourquoi faire intervenir un coach sur la gestion des émotions à Dakar?
Oui, vous savez, Emmanuel, au niveau des entreprises, il y a un stress permanent. Et en plus, au niveau des étudiants, parce que nous, on ne forme pas seulement pour l'aspect professionnel, mais aussi on forme les étudiants qui veulent aller au niveau des entreprises par rapport à la gestion de leurs émotions. Maintenant, les remarques, la plupart des cas...
Mais pourquoi? Parce que c'est la peur de ne pas savoir se maîtriser en entreprise, d'être trop stressé. J'arrive pas à comprendre quelle est la demande de base. Quel est le problème de base?
Voilà, le problème de base, c'est qu'au niveau des entreprises, la plupart des cas, il y a ce qu'on appelle ce conflit interne. Et il y a ce qu'on appelle ce manque de gestion émotionnel et qui peut conduire à beaucoup de problèmes.
Vous pouvez nous donner un exemple concret, Karim?
Voilà, donc il y a un ami qui est venu me voir et qui m'a dit que lui, souvent, quand il avait un problème au niveau de la maison avec sa femme, par exemple, il s'engueule avec sa femme, au niveau de l'entreprise, il fait ce qu'on appelle le transfert d'humeur.
Donc, le transfert du...
D'humeur.
Oui, d'accord. Le transfert
voilà,
d'humeur.
Il va
en gros, son équipe s'en prend plein la figure toute la journée parce qu'il s'est engueulé avec sa femme, c'est ça?
Effectivement, et il va reporter cette émotion-là au niveau des collègues. Et bonjour les problèmes au niveau de l'entreprise.
Oui.
Donc nous, on intervient dans ce domaine pour aider les gens à gérer leurs émotions.
Donc vous intervenez pour régler la crise conjugale ou pour...
Non. C'est-à-dire au niveau de l'entreprise, ça c'est juste un exemple.
Oui, non, mais j'ai bien compris.
À l'intérieur de l'entreprise, il peut y avoir beaucoup de sources de problèmes liés à l'émotion.
Ouais, très intéressant. Oui, allez, je vous en prie, Karim, poursuivez.
Voilà. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que les gens, des fois, la plupart des cas en entreprise, ils vont essayer de vous détruire par là où vous êtes émotivement faible. Et votre réaction doit être intelligente et surpasser l'action qui est la source de l'émotion ressentie. Par exemple, je vous donne un exemple. Je suis en entreprise, vous m'insultez. Je peux réagir par rapport à cette insulte. Je peux vous sourire. Je peux vous donner un coup de poing. Quand je vous souris, je fais preuve d'intelligence émotionnelle. Et quand je vous donne un coup de poing, c'est parce que je suis la faiblesse et vous, vous êtes la force. Donc, en intelligence émotionnelle, il faut savoir gérer ces émotions. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que l'émotion s'exprime, ça passe par un processus.
Bon.
Ça passe d'abord par le cerveau, le cerveau limbique. Donc, cette partie qu'on appelle amygdale, qui est impliquée directement dans la reconnaissance et l'évolution de la valence émotionnelle, qui alerte le corps. Et qui vous dit, tiens Karim, il y a l'émotion qui est en train de venir.
Oui.
Maintenant, ça va se voir directement sur l'expression du visage. Maintenant, ce que vous allez en faire, ça dépendra de l'intelligence émotionnelle.
Juste une dernière question, Karim, hein, parce qu'on va donner la parole aussi à nos invités qui ont envie de réagir, parce que tout ce que vous dites est très intéressant. Une question, est-ce que les émotions se gèrent différemment selon les cultures? Je vous pose la question à vous qui travaillez essentiellement avec des entreprises sénégalaises, je présume.
Oui, effectivement, l'émotion, on la gère selon les cultures et selon les moments et les types d'émotions qu'on ressente. Parce que vous savez, la façon dont on gère la peur, la façon dont on gère la tristesse ou bien la colère diffère selon les personnes, selon les situations. Donc, c'est ce qui fait que quand vous ressentez l'émotion, il faut d'abord, la première des choses, c'est de reconnaître l'émotion.
Qui est en train de monter. Merci Karim de nous avoir appelé et de nous avoir éclairé sur votre pratique. Effectivement, le transfert d'humeur, tout ça, bien évidemment, Julia de Funès, ce sont des choses sur lesquelles vous êtes appelée à travailler.
Oui, alors le témoignage de Karim me fait penser à plusieurs choses. Quand on dit qu'on gère ses émotions, on sous-entend aussi qu'on peut rationaliser ses émotions. La gestion devient rationnelle. Ça, moi, j'y crois pas du tout. Le vieux match depuis l'Antiquité qui consiste à opposer la raison et les sentiments ou les émotions me semble une imposture. Comment on gère les émotions? C'est une autre émotion qui va venir contrecarrer une autre émotion, mais c'est pas la raison qui est toute puissante. Et essayer de gérer votre amour quand vous êtes amoureuse, c'est très compliqué. Essayer d'arrêter de fumer quand vous avez un plaisir fou à fumer, vous voyez bien qu'il suffit pas de voir le bien pour le faire. Donc la raison, elle est très faible par rapport aux émotions. Les affects dominent quand même beaucoup les individus. Ça veut pas dire qu'on arrive pas à les gérer, mais encore une fois, sous le mot gestion, j'entends rationalisation et ça, j'y crois pas. Et sur les entreprises, En gros, pour quand vous posiez la question à Karim, ce qui est fou, c'est que les managers créent des conditions de stress ou d'angoisse, des injonctions paradoxales, vous les avez évoquées, et après demandent à des intervenants externes de gérer ce qu'elles ont elles-mêmes créé, si vous voulez. Donc c'est une sorte, on déporte un peu la responsabilité des entreprises en faisant appel à des coachs en tout genre.
Ce problème, il est complètement international aujourd'hui, Anne-Charlotte Vuccino, vous qui avez monté des bureaux au Brésil, à Singapour. Est-ce que les missions des entreprises, les résultats qu'elles doivent obtenir font qu'on est tous plongés dans ces mêmes questionnements ?
Ce qui est assez amusant quand on commence à dupliquer Yogist à l'international, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement, la problématique à laquelle on s'est attaqué, à savoir le stress au travail, les tensions liées à la sédentarité et aux nouveaux modes de travail avec les nouvelles technologies, sont à peu près les mêmes partout. Ils sont plus ou moins exacerbés dans certaines parties du monde. Par exemple, au Brésil, les gens sont plus ou moins en mauvaise santé parce qu'ils sont assis très 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 longtemps, y compris 4 heures par jour dans leur voiture. À Singapour, ils sont beaucoup plus sportifs et un peu plus jusqu'au boutiste, et donc ils ont une manière d'expulser et de se détoxer qui est beaucoup plus violente qu'ailleurs. Mais on se rend bien compte que les entreprises sont confrontées aux mêmes problématiques un peu partout. Et le problème que moi j'identifie, c'est qu'on attend des gens qui sont dans l'entreprise, qu'ils soient différents de ceux qu'ils sont le week-end, le soir, chez eux. Alors qu'en réalité, on ne peut
pas
changer...
vivre en collectivité, attendez, pour vivre, travailler
évidemment.
À plusieurs.
Sauf que si on vous demande de changer radicalement de la personne que vous êtes le matin chez vous, le soir chez vous, le week-end avec vos amis et la personne que vous êtes en entreprise, là on rencontre un vrai problème. Et du coup, la réponse qu'on a essayé d'apporter et qu'on donne, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour se connaître, connaître son corps, connaître ses réactions, prendre du recul, aussi bien au travail, parce que c'est là qu'on passe le plus de temps dans la semaine finalement, et en même temps rapporter ses enseignements chez soi pour que finalement ce développement personnel, comme en parle Karim, aille contaminer positivement finalement tous les aspects de notre vie, et pas seulement la partie de la journée qu'on passe au travail.
Aurélie Janté, on est les deux pieds dans la société du « venez comme vous êtes, soyez comme vous êtes », individuellement.
Bah, plus ou moins, c'est-à-dire qu'on est quand même beaucoup, pour rejoindre ce que disait Julia, dans une dichotomie, une pensée très très dichotomique entre émotion et raison. Et le monde du travail serait celui de la raison instrumentale, de l'efficacité, de la rationalité, etc. Et on relèguerait au hors-travail, à l'espace privé, domestique, les émotions. Donc on est quand même toujours dans ce schéma qui est extrêmement prégnant, avec une dévalorisation et une peur des émotions, comme si le fait d'exprimer ses émotions serait dangereux, ça serait, voilà, le risque serait l'anarchie, on ne pourrait plus vivre ensemble, etc. Alors qu'il faut bien voir, de toute façon, les émotions, elles sont régulées. Et je pense qu'il faudrait arrêter de travailler contre ces émotions.
Vous dites qu'elles sont régulées, elles se régulent naturellement, c'est ça que vous voulez dire ?
Par la société, parce qu'on est de toute façon en société, on a appris à une socialisation émotionnelle, et selon les métiers, il y a des règles, on peut exprimer certaines émotions et pas d'autres, etc. Donc il faut arrêter de les voir comme étant du côté de la nature. Voilà, c'est les émotions, elles sont régulées, et donc il faudrait mieux travailler avec les émotions, avec ces émotions, et effectivement faire le lien travailleur-travail. C'est-à-dire, par exemple, il y a dans certains secteurs, on arrive au travail et avant une réunion, par exemple, il y a un tour de table pour prendre la température, la météo de chacun, qui peut venir justement en disant je me suis, comme dans l'exemple de Karim, disputé avec ma femme, ça va pas du tout, je sais pas. Voilà, et là, on l'exprime
dans certains, à quoi vous
pensez ? Je pense par exemple à des associations qui travaillent dans l'écologie, dans ce type de secteur.
Mais c'est complètement hypocrite.
Ah non, au contraire, parce que ça permet justement, en le disant,
non, mais on
de, pas de payé, le laisser de côté.
On n'est pas forcément payé pour s'intéresser à la vie privée de l'autre en entreprise,
mais
ou même dans une association.
Mais il ne s'agit pas d'exprimer toutes ces émotions n'importe quand. Mais il s'agit de ne pas les étouffer et de ne pas faire comme si elles n'étaient pas là. Pour justement pouvoir travailler, parce qu'effectivement on sait que le travail aussi nous permet d'oublier nos problèmes personnels à certains moments, etc. Et qu'on a besoin de se concentrer.
Julia de Funès, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous dénoncez beaucoup quand même, maintenant qu'on nomme des managers, enfin des chief happiness managers, responsables du bonheur, ça existe. Hein,
oui, bien sûr.
Des vrais postes.
Ce qui est très paradoxal en entreprise, c'est que d'un côté, on insiste sur la dichotomie vie privée vie privée et vie publique, enfin vie au travail. Il ne faut surtout pas montrer ses émotions dans le travail. Et en même temps, l'entreprise devient un lieu de tout maintenant. Si vous allez dans les technopôles des grandes entreprises à Paris et en France, vous avez 8 étages avec le psy, l'ostéopathe, la piscine, la crèche, le baby-foot, etc. Et donc, il y a une porosité entre les deux. Donc, l'entreprise ne sait pas se positionner véritablement, je trouve, aujourd'hui, si est-ce qu'on doit mettre le privé dans le travail ou non.
D'ailleurs, vous racontez une scène dans votre livre assez terrifiante de séance de yoga. Je ne dis pas ça parce qu'Anne-Charlotte Vulcino est là et a monté une start-up sur le yoga en entreprise, mais vous racontez cette séance dans une grande banque où la prof de yoga dit, il y a une séance de yoga, dit à une jeune cadre qui vient d'intégrer l'entreprise, ton pied est en dehors du tapis, ça signifie que tu as du mal à trouver ta place dans la banque. Et elle éclate en sanglots.
C'est ridicule. C'est pas le yoga n'a pas cette finalité-là. C'est fantastique de faire du yoga. C'est pas ce qu'on critique dans le livre. C'est pas évidemment que c'est pas le yoga en entreprise. C'est cette transposition, cette psychopathologisation qui est extrêmement prégnante dans l'entreprise, mais aussi dans notre société. Il suffit de mettre le coude d'une certaine façon et on va y voir un signe freudien terrible. Donc c'est ça qui engourdit aussi les salariés et qui les rend malheureux au travail. C'est que tout est visible, tout est vu, tout est interpréter. À un moment, soit on fait du sport, soit on fait du yoga, on fait vraiment une heure de yoga et on n'a pas besoin de psychologiser derrière ces attitudes. C'est ridicule.
Et pour rebondir sur ce que dit Gilles, moi je suis complètement d'accord avec ça. Nous, on a développé des méthodes pour amener le yoga en entreprise comme un moyen de faire de la prévention santé et de rester en bonne santé, mais j'ai vu des dérives. Par exemple, certaines entreprises avec lesquelles on travaillait qui nous disaient, nous, ce qu'on voudrait, c'est observer nos cadres pendant qu'ils font la séance de yoga avec vous pour voir comment ils réagissent.
Derrière une vitre teintée.
Et nous, évidemment, qu'on a dit no go, c'est pas un assessment center, il n'en est pas question, il faut qu'ils puissent relâcher, être dans une bulle et pas se sentir
mais
observé.
Sérieusement, on vous a dit ça.
On nous a demandé ça, bien sûr.
Il y a une instrumentalisation des pratiques. Et c'est pour ça que je critique aussi le bonheur en entreprise, parce que c'est pas du tout le bonheur des gens que les managers cherchent, ils s'en foutent du bonheur des gens. Une entreprise, elle est là pour être performante. Si elle n'est pas performante, elle crève. Mais simplement, on se dit des gens bienheureux au boulot seront plus performants. Je pense exactement l'inverse. C'est quand ils auront des conditions d'être performants qu'ils seront bien plus heureux. Le bonheur a une conséquence, c'est pas une condition.
Les voisins, dites-nous, quelles sont vos émotions au travail et comment vous les gérez, puisque de nos jours, il faut tout gérer, sa colère comme sa lassitude. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
La femme de mon patron est tombée amoureuse de moi. Elle m'a proposé de devenir son amant. Elle est riche et elle est belle, mais moi je ne veux pas de problème. Son mari c'est mon directeur, moi je suis son chauffeur. Si je deviens l'amant de la femme du patron, c'est dangereux. Sont diaboliques, malgré leur beauté angélique. Quand une femme est amoureuse, elle devient très dangereuse. La femme du patron m'a dit si je refuse, elle ira dire à son mari que c'est moi qui lui fais la cour. Même si je suis innocent, j'aurai de gros ennuis. Devant cette situation, je ne trouve pas de solution. Car dans cette affaire, moi je ne sais plus que faire. Puis dans tous les cas, je n'ai pas tellement le choix. Si je dis oui, c'est imprudent à cause du patron. Mais si je dis non à la femme, elle va se venger.
C'est Daouda, la femme de mon patron. J'aime beaucoup cette chanson. Merci Romain de l'avoir programmée. Vous nous écoutez sur RFI en direct, 7 milliards de voisins. Et on parle des émotions au travail. Faut-il les cacher, les maîtriser ou au contraire les laisser sortir dans la limite du vivable, évidemment, pour le groupe. Puisque par définition, quand on travaille en général à plusieurs. Je ne parle pas des gens qui sont tout seuls toute la journée devant leur ordinateur, auquel cas, effectivement, ils peuvent pleurer hein, même.
C'est des émotions eux aussi, hein, les pauvres.
Un message de Mohamed qui a 23 ans, qui est à Yaoundé. Ah oui, il veut pas s'exprimer parce qu'il a peur que son patron ne le reconnaisse au téléphone. Alors voici ce qu'il dit. Au Cameroun, les gens ne gèrent pas leurs émotions. Une caissière qui a mal dormi peut mal vous traiter. Au bureau, une secrétaire énervée va mettre votre dossier dans un tiroir. Voilà. Bon, bah écoutez, Mohamed, il a pas l'air de très bonne humeur. Je suis pas sûre qu'il y ait des différences d'un pays à l'autre. Alors vous qui avez beaucoup voyagé, Anne-Charlotte Vulciano, vous avez d'ailleurs dans une première vie, avant de vous mettre au yoga, travaillé dans l'humanitaire sur le continent africain. Vous avez eu le sentiment maintenant, rétrospectivement, qu'il y a une façon différente dans les cultures de gérer ses émotions? Puisque j'ai posé la question à Karim tout à l'heure, mais finalement, il a eu l'air de dire que pas forcément.
Très honnêtement, je pense qu'on a tous les mêmes réactions et les mêmes émotions. En revanche, la manière de les montrer va pas être la même. La manière de les signifier à l'autre, la manière de les manifester va pas être la même. Moi, je me souviens quand je travaillais au Bénin, la première chose qu'on m'a demandé, c'est « sois patiente ». Parce que la valeur du temps n'est pas la même quand on arrive de Paris complètement surexcité et quand on est à Natitingou dans la Takora. Je sais qu'on ressentait exactement la même émotion d'urgence, d'impatience, etc. Simplement, il fallait pas la montrer.
Ne pas montrer son impatience.
Parce qu'on risquait de mettre une opération par terre.
Qui peut être considérée d'ailleurs, non pas comme une impatience, mais comme une précipitation, auquel cas non professionnelle finalement, car la précipitation n'est pas une émotion professionnelle, d'une certaine manière.
Précipitation comme émotion, je vois pas trop. Mais ce qui est très notable en fonction des pays...
Alors, fébrilité.
L'impatience.
Oui, l'impatience. Mais en tout cas, si je rebondis sur votre sujet, sur en fonction des pays, etc., il y a une histoire des émotions, il y a une localisation. On a tous les pays, on est tous humains, on a les mêmes émotions. C'est depuis l'Antiquité, depuis l'histoire des hommes, on a les mêmes émotions. Simplement, il y a une histoire en fonction des pays, des émotions. Si je prends l'exemple de la peur, puisque je crois que c'est moi, enfin le dernier interlocuteur a dit j'ai peur de m'exprimer et c'est très très notable. Alors en France, à Paris aujourd'hui, on est dans une idéologie de la peur, mais c'est fou, on a peur de tout. Si vous regardez les films éco-catastrophiques à longueur d'écran, on a peur du sexe, du tabac, de manger de la viande, des œufs, du boisson,
enfin,
du réchauffement
dans
climatique.
Dans votre cas, en tant que consultante en entreprise, les managers que vous coachez ont surtout peur des actionnaires.
Peur de tout. Et ce qui est intéressant sur cette émotion, c'est que avant, les Grecs disaient mais enfin l'émotion la plus puérile, la plus infantile, c'est la peur. Qui est-ce qui a peur? Ce sont les enfants. Et aujourd'hui, c'est totalement inversé. Ce sont les adultes et les managers et les grands directeurs qui ont peur.
On donne la parole à une voisine qui nous appelle du nord du Cameroun. Bonjour Asta.
Bonjour.
Alors vous êtes susceptible. C'est un de vos traits de caractère. C'est ce que vous avez dit au Standard. C'est pas dramatique d'être susceptible.
Oui, exactement.
Mmh. Racontez-nous.
Comme je vous ai écrit, comme j'ai dit, moi je suis hyper susceptible. Voilà, un rien peut me déranger.
Mais
voilà.
Un rien, c'est-à-dire
bon. Je ne sais pas vraiment quoi dire. Il suffit que mon chef, par exemple, me fasse une remarque. Enfin, là, ça m'énerve tout de suite. Ah, voilà.
Une remarque anodine.
Mmh. Ouais.
Et donc?
Mais bon, même si je m'énerve et même si ça me fait quelque chose, je le montre jamais. Je préfère garder tout ça pour moi et ne pas en parler avec mes collègues parce que voilà, comme je disais, on n'a pas vraiment d'amis au travail. C'est vrai, on se supporte, on se tolère, mais on n'a pas du tout d'amis au travail. Il se peut que tu ailles parler de tes problèmes avec ton chef à ton collègue et que voilà, après lui, il aille rapporter et puis... Ça te pose des problèmes après. C'est un peu ça le problème avec nous ici en Afrique, c'est que tout ce que tu dis est rapporté. Donc après, ça peut te poser des problèmes, donc autant mieux garder tout ce que tu ressens pour toi.
Est-ce que vous avez le sentiment, en étant une femme, Asta, que la maîtrise des émotions est différente ou pas du tout? Ou en tout cas, plus importante, plus indispensable en étant une femme?
Bien sûr, parce que voilà, pour un homme, on peut lui pardonner des égarements de comportement des fois, mais toi, une femme, t'as pas le droit de faire certaines choses. Il suffit d'un petit mauvais pas, et puis voilà, on te dégage. Donc, être une femme, c'est... Faut vraiment se contrôler, quoi.
Être une femme, il faut se contrôler. Merci Asta de nous avoir appelé. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, moi, il me semble effectivement Asta met le doigt sur quelque chose de très important, la question des différences hommes-femmes. On n'est pas socialisé de la même manière aux émotions. Et c'est vrai que les exigences par rapport aux femmes sont beaucoup plus fortes. Par exemple, il faut être aimable, souriante, etc. Les exemples de Mohamed aussi, hein, il parle d'une secrétaire qui va mal vous traiter, une caissière qui va être désagréable. C'est pas non plus anodin qu'il ait choisi, il me semble, des exemples de femmes. Et donc, il y a effectivement une exigence qui est extrêmement forte. Et puis, alors, le contexte aussi de travail est très important. Asta nous dit, voilà, il y a une méfiance. Hein, là où elle travaille, il n'y a pas la confiance nécessaire pour exprimer ses émotions, donc elle doit les garder pour soi. Et ça, c'est clair que selon les métiers, selon les équipes locales, on peut ou pas exprimer ses émotions.
Awa nous appelle de Dakar au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Awa.
Bonjour Emmanuel.
Alors Awa, vous n'arrivez pas à contrôler vos émotions?
Oui. C'est ce qui m'arrive depuis que je suis toute petite.
Oui. Et ça veut dire quoi, concrètement?
Je ne sais pas exactement. Je sais pas si c'est une maladie ou bien c'est autre chose.
Non, mais comment ça se manifeste, Awa, qu'on comprenne bien?
Quand une personne me crie dessus, ça se manifeste.
C'est-à-dire, je ne comprends pas bien.
Au travail?
Oui, au travail. Quand je travaille comme une babysitter.
Oui.
Je faisais mon boulot correctement, mais la dame, elle n'arrêtait pas de me crier dessus tous les jours. Elle disait des choses qui me blessaient.
Oui.
Un jour, j'ai craqué et je me suis battue avec elle. Et elle m'a virée.
Ah oui. D'accord. Donc, c'est la patronne, hein, votre patronne. Vous gardiez des enfants et donc, ça s'est terminé en bagarre physique.
Oui.
Mais là, en l'occurrence, je crois aussi que, d'après ce que vous décrivez, votre patronne elle-même ne contrôlait pas non plus ses émotions.
Oui, elle était comme moi, c'est ça le problème.
Mais c'est un peu comme tout le monde. Vous voyez, c'est ça qui est difficile, je trouve, et Awa le montre très bien, c'est-à-dire qu'on culpabilise de ne pas savoir contrôler ses émotions. Mais l'émotion, c'est ce qui ne se contrôle pas, sinon par une autre émotion. Si j'ai peur, eh ben, je vais pouvoir contrecarrer un peu ma peur par le courage, mais ce sera encore une autre forme d'émotion qui viendra contrecarrer l'émotion. Le cerveau n'est pas tout puissant, le volontarisme individuel n'est pas tout puissant, donc ne culpabilisons pas quand on réagit à quelqu'un qui ne contrôle pas elle-même ses émotions. C'est
alors,
normal.
Je sais que vous démissionnez du coup souvent, Awa, parce que ça se termine mal, il y a eu d'autres fois où ça s'est mal terminé également, et vous voulez savoir comment mieux vous contrôler quand vous sentez la colère monter en vous, qui d'ailleurs peut être une colère légitime, parce que là, ce que vous nous décrivez, on peut comprendre d'être en colère quand on se fait insulter par sa patronne. Qu'est-ce qu'on peut conseiller, Anne-Charlotte Vulcino?
Pour réagir à ce que dit Awa et Julia, effectivement, les émotions, personne ne les contrôle, et toute sa vie, c'est un travail sur soi, finalement, pour apprendre à se connaître, savoir ce qui nous fait réagir, ce qui nous fait monter au plafond, ce qui nous fait avoir envie de se bagarrer avec les autres, pour voir les identifier à l'avance et éventuellement pouvoir les atténuer, les reculer ou en tout cas faire en sorte de les gérer, même si on n'aime pas ce mot. Mais c'est un travail de longue haleine que tout le monde, homme ou femme, est censé faire dans sa vie, non pas pour être plus performant au travail, mais tout simplement pour être une meilleure personne, pour être mieux dans sa peau, mieux dans sa tête, mieux avec ses proches et pas se faire un ulcère à 50 ans parce que on est trop stressé ou qu'on n'arrive pas à gérer, comme on dit.
C'est une question qu'on
émotions.
Vous pose, ça, quand vous faites des séances de yoga en entreprise, la colère, la question de la colère.
Mais bien sûr, la question de la colère, la question de l'insomnie parce qu'on se tracasse et qu'on tourne des problématiques dans sa tête, la question de la boule dans l'estomac parce qu'on a peur, tout ça, ce sont des symptômes extrêmement physiques.
Sur la colère, d'émotions. Il y a plein d'exercices dans votre livre. Qu'est-ce que vous conseillez concrètement?
Mais très concrètement, sur la colère ou sur n'importe quelle émotion négative qui se manifeste sous forme de pulsion ou de bouffée, la respiration, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas quand on est petit, mais qu'on devrait nous apprendre dès l'école, c'est le meilleur outil pour apprendre à maîtriser ou en tout cas à juguler ces pulsions-là et à ne pas les laisser exploser ou en tout cas à redevenir maître à peu près de ses émotions. Non pas en utilisant quelque chose d'exogène, mais en utilisant une ressource qui est purement interne, à savoir sa respiration. La respiration,
donc,
c'est ce qui vous permet d'avoir un impact sur votre système nerveux.
Votre patronne ou votre patron est en train de vous réprimander, voire de vous insulter. Qu'est-ce que vous faites de votre corps à ce moment-là?
Bah, le corps, évidemment, spontanément, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se raidir. Alors que la meilleure façon de faire ça, ça serait de le détendre. Et de le détendre avec une respiration où on apprend à respirer de manière hyper profonde. Où en gros, on se met dans une bulle, on se met derrière un bouclier en attendant que l'orage passe pour ne pas se laisser prendre dans le même orage qu'on se prend dans la figure. C'est un travail qu'on peut faire sur soi et qu'on peut apprendre avec des techniques hyper, hyper simples qui sont à la portée de tout le monde, gratuites, non chimiques, que tout le monde peut faire.
Et pour rebondir sur ce que dit Anne-Charlotte, qui s'occupe du corps, mais c'est exactement la même chose pour l'esprit, c'est la même attitude, c'est-à-dire ne jamais subir, en fait, que ce soit par un contrôle de sa respiration ou en tout cas réagir. Moi, je serais pour réagir même de façon colérique, mais à un moment, ce que je trouve le plus grave, c'est d'étouffer, de refouler, de camoufler ses émotions. À la limite, on fait mal, on a trop réagi, on a surréagi.
C'est quand même difficile quand il y a une relation de pouvoir avec la personne, par exemple, qui vous réprimande ou vous insulte et qu'elle est plus puissante que vous.
Oui, mais quand on est un être humain, on n'a pas à se faire insulter ou se faire. C'est ça. C'est cette logique en entreprise qui consiste à dire c'est mon patron, donc je la boucle. C'est pas possible. À un moment, quand il y a un manque de respect ou de politesse, on n'est plus dans un rapport de patron-salarié, on n'est pas dans une logique de travail, on est dans une logique humaine. Et là, il n'y a aucune raison de se laisser faire, de se laisser crier dessus. Donc il faut réagir par le corps, par un contrôle de ses émotions, par une respiration, est-ce que vous voulez.
Mais en répondant calmement, si possible, en évitant les mains.
Ah, je ne dis pas qu'il faut aller lui mettre un poing dans la figure, c'est pas ça, mais de lui dire cette façon de me parler est irrespectueuse, est intolérable, est ce que vous voulez, mais il faut agir à un moment.
Merci à Awa de nous avoir appelé, j'espère que on vous a à la fois réconforté et en même temps la prochaine fois vous saurez ce qu'il faut faire, hein, vous allez construire votre petite bulle.
Oui, oui, je vais essayer.
Très bonne journée à Dakar.
Mais si je peux.
Mais bien sûr.
Fermat, juste. Alors moi, je suis complètement d'accord hein, sur la question de la respiration, sur voilà, tout ça. Mais je pense qu'effectivement, il faut faire aussi avec ses propres émotions. C'est-à-dire que si on voit que des propos nous heurtent, je pense qu'il faut pouvoir aussi le dire. Dire voilà, là, ce que tu me dis là, ce que vous me dites là, moi, ça me procure telle émotion. Donc c'est déjà aussi une façon non agressive, mais de mettre l'autre en face aussi de ses responsabilités. Parce que nous sommes des êtres sensibles, donc il ne faut pas se cacher, hein, refouler, et puis se mettre dans cet état d'esprit selon lequel ben justement on serait un pur esprit, il faudrait pouvoir gérer, avoir une intelligence émotionnelle, etc.
Il faut
etc.
donc parler de son ressenti.
Oui, voilà, au moment je pense où on effectivement, le ressent. Et effectivement, il y a des rapports de pouvoir, je voulais aussi rebondir là-dessus, on en a beaucoup parlé, il y a des rapports sociaux de classe, des rapports sociaux productifs entre un subordonné et son supérieur, des rapports sociaux de sexe où effectivement là aussi on voit que c'est pas la même chose, des rapports sociaux de race, hein, et je pense qu'effectivement c'est important de s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'on peut pas effectivement exprimer tout de la même façon, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un monde social. On sait aussi que c'est moins évident, par exemple, quand on est une femme, de se mettre en colère que quand on est un homme.
Une femme qui se met en colère, elle est vite hystérique. Un homme qui se met en colère, il a finalement une forme d'authenticité, non, c'est ça?
Oui, non, mais ça sur le... Bon, les hommes ont beaucoup à fort à faire aussi, moi, je trouve, avec les émotions. Ils doivent être très virils, en même temps, ils doivent être doux. C'est pas facile pour eux non plus, même si je suis d'accord sur les femmes, on est plus peut-être caricaturées. J'ai un exemple en entreprise de bureau, et c'est pour rebondir sur ce que dit Aurélie. Je travaillais dans un cabinet de recrutement, il y avait une femme absolument odieuse, mais vraiment odieuse, vous voyez, c'est rare, des exceptions comme ça, et qui terrorisait tout le monde dans le cabinet de recrutement. Et un jour, elle me donne un ordre, mais sur un ton qui était inimaginable, irrespectueux. Et le simple fait de dire... J'ai pas parlé de mes émotions, mais j'étais heurtée moi-même par cette façon de me parler. Et je lui dis, mais madame, je comprends pas, vous terrorisez tout le monde dans le cabinet, vous avez un problème relationnel, apparemment. Je l'ai peut-être très mal dit, c'est pas la formulation qu'il fallait dire. Mais je lui ai renvoyé, en fait, ce que je ressentais. Et elle s'est effondrée en larmes. Cette femme qui était tyrannique, très difficile, s'est mise à pleurer et à trembler. Et je me suis dit, à un moment, il faut renvoyer. Quand on ressent quelque chose, en général, on n'est pas seul à le ressentir. Si quelqu'un est très désagréable au bureau, on est plusieurs à avoir ressenti son côté très désagréable. Donc, lui renvoyer un peu la monnaie de sa pièce, ça peut permettre de décongestionner les choses.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Voilà, on essaye de démêler les émotions au travail. Faut-il les cacher, s'en servir aussi, puisque maintenant, il y a cette injonction d'apparaître plus humain dans l'entreprise tout en étant dans le self-control. C'est compliqué. Mamadou nous appelle de Dakar. Bonjour Mamadou.
Bonjour.
Vous avez 36 ans et vous gérez une équipe de 10 personnes. Alors comment vous vous situez par rapport à ça? Racontez-nous.
Alors, nous, on gère l'émotion ensemble. On se dit qu'une seule personne ne peut pas gérer tout seul ses émotions. Oui. Et puis, on s'est dit que les émotions, c'est une autre forme de communication. Peut-être moins élaborée, beaucoup plus brute et plus spontanée. Mais on gère ça ensemble. On en parle, on en discute. Comme on passe 8 heures de temps ensemble au bureau, on s'est dit, on est comme une famille. On va dire qu'on est une famille professionnelle. Si on a des soucis personnels à la maison, on n'est pas obligé d'en parler forcément, mais on peut parler des émotions, des problèmes qu'on traverse si on en a envie. Et puis, on s'entraide, on s'improvise coach personnel.
Oui, mais comment ça se passe ? C'est-à-dire que le matin, vous arrivez tous, vous vous retrouvez, vous vous parlez de ça ? Il y a un temps pour ça ou c'est, ça s'immisce au milieu du travail ?
Non, absolument pas. En tout cas, chacun peut à n'importe quel moment appeler l'un des collègues et aller lui parler par rapport à un problème. Et si la personne ne parle pas et qu'on voit que la personne n'est pas bien, on va aller lui poser des questions. Qui ne va pas, on est là pour toi. Vraiment, on s'attache.
Et vous-même, en tant que manager, comment vous parlez de vos propres émotions ?
Alors, j'ai une très bonne amie au bureau. Donc, en général, moi, j'arrive à cacher, c'est une culture familiale, je cache bien mes émotions, mais elle arrive à me décrypter. Donc, c'est quand je vais pas bien.
Ah oui. Donc finalement, c'est intéressant parce que vous dites, vous avez été éduqué à cacher vos émotions.
Exactement.
Mais alors finalement, aujourd'hui, vous avez choisi cette politique-là et qu'est-ce que ça donne ? Vous avez l'impression qu'il y a plus de bien-être au travail ?
Il y a plus de bien-être, on s'amuse tout le temps.
Ah oui, carrément.
Et puis l'autre chose qu'on a instauré aussi au bureau, c'est que comme on est comme une famille, on mange toujours ensemble, on peut déjeuner ensemble, on déjeune ensemble. Voilà. Et puis, des fois, quand le temps le permet, on sort, on se balade, on part à la plage. Et puis voilà.
C'est sympa. Mais personne ne se sent forcé. Enfin, n'y voyez pas de mauvaises intentions de ma part, mais personne ne se sent forcé dans votre équipe de faire comme le chef ?
Non. En fait, le truc, c'est que quand il y a de nouveaux arrivants, donc ceux qui le font, eux, au début, ils nous regardent de loin, et puis au fur et à mesure, eux-mêmes, ils vont s'intégrer tout seul. On ne force personne. C'est-à-dire qu'on a créé une bulle agréable, entre guillemets, on va dire. Quand ils voient que quand quelqu'un a un problème, tous les autres sont là pour lui, ben écoute, ils vont forcément avoir envie de ça aussi. Ouais,
une bulle agréable. Julia de Funès, comment vous décryptez ça ? Merci en tout cas, Mamadou, de nous
c'est
avoir
drôle,
appelé.
Ça donne envie. Hein. Oui, ça donne envie, sauf qu'on est sur quelque chose d'assez ubuesque. C'est qu'on dit qu'en fait, on est très très bien dans son boulot parce que on déjeune en famille parce qu'on va à la plage et parce qu'on s'amuse, c'est les mots de cet interlocuteur.
Ouais, de Mamadou.
Donc c'est tout sauf le travail quand même. Mais c'est drôle parce que maintenant, d'ailleurs c'est la même chose en France, hein. L'entreprise est devenue un lieu ludique, un lieu de cool, un lieu de fun.
Ça veut dire que si vous n'avez pas le temps d'être détendu, c'est que vous vous organisez mal aussi. C'est un peu culpabilisant d'une certaine manière aussi.
Ouais, exactement. Et puis il faut être dans l'air du temps et qu'il y a une norme comportementale managériale à s'éclater, à jouer, à s'amuser. Philippe Meurel a déjà bien expliqué dans ses essais. Mais les gens souffrent aussi de cet amusement permanent parce que ça leur laisse pas beaucoup de temps pour travailler. Et quand on part deux jours en escape games, en formation et en séminaire ouvert, en escape games, vous savez, c'est la nouvelle mode, il faut faire des jeux, des escape games, quoi, des jeux pour souder les équipes et créer du lien. Bah, simplement, sur ces deux jours de boulot, on a perdu deux jours et il faut rattraper le temps perdu. Mmh. Donc l'entreprise devient quand même un grand lieu de loisirs et les gens n'en sont pas forcément heureux. Alors je dis pas qu'il faut être dans une usine et revenir à l'ancien temps, mais à un moment, je trouve qu'on déborde un peu, on dérive et que ça devient une grande cour de récréation très souvent.
Anne-Charlotte Vuccino, on parle du plaisir, du jeu, du bonheur, du bien-être avec vous pour le yoga. Tout ça sert quand même une finalité qui est la productivité de l'entreprise. Alors que le yoga, au départ, c'était vraiment tout sauf ça. C'est quand même assez paradoxal que le yoga, aujourd'hui, soit au service d'une doctrine finalement assez néolibérale, non ?
Ouh là là, alors on n'est pas du tout sur ce sur ce mode de compréhension. Moi, ce que je voudrais dire en réaction à ce que dit Julia, c'est qu'effectivement, je pense que le yoga, les escape games, fait comme un loisir exogène pour compenser un travail pénible qui manque de sens et qui rend les gens malheureux, ne fonctionnera jamais pour rendre les gens bien au travail, plus productifs, etc. Ça serait mettre un pansement sur une jambe de bois. En revanche, que chaque chacun puisse choisir un métier qui lui correspond à sa personnalité, à ses envies, à son mode de travail, à son mode de management. Je pense que c'est vraiment ça, la solution que chacun doit trouver et qui doit finalement être le résultat d'un travail sur soi, apprendre à se connaître, apprendre à savoir comment
sur les jeunes. Juste une précision, moi quand je parlais des escape games, j'ai assimilé pas du tout le yoga aux escape games.
Partie de ces nouveaux outils, en tout cas à la disposition des entreprises quand elles font appel à des cabinets extérieurs.
Il y a une psychologisation, effectivement, une culpabilisation, une individualisation. Quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est aussi vers ça qu'on tend. Mais en même temps, moi, je trouve que Mamadou, en tout cas dans l'exemple qu'il nous rapporte, a trouvé effectivement la parade, je pense, qui est la plus importante. Hein. C'est le collectif, c'est le fait d'avoir des relations de confiance.
L'attention à l'autre.
Et voilà, absolument. D'être attentif à ses propres émotions et à celles des autres. Et ça, je pense que c'est absolument essentiel.
Et là où l'entreprise a un vrai rôle à jouer, c'est qu'effectivement, les collaborateurs n'ont pas forcément les techniques, les moyens d'appréhender ces émotions, de mettre en place ce côté relax, fun, etc. Et que finalement, ça peut être aussi de la responsabilité de l'entreprise de donner aux collaborateurs, s'ils en ont envie, ces outils pour se développer et apprivoiser ces soft skills dont on parle beaucoup. Et c'est là que la responsabilité d'entreprise entre en jeu, et c'est là que ça peut devenir un win-win, à la fois pour la productivité de l'entreprise, parce qu'effectivement on n'est pas là que pour faire des escape games, on est aussi là pour nourrir les collaborateurs et pour créer de la valeur, et pour le collaborateur qui va pouvoir ramener dans sa vie personnelle aussi ce qu'il a appris en entreprise.
Alors en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? On fait quoi de ces émotions au travail? D'ailleurs, pas que les émotions négatives, hein. Ça peut être aussi des sentiments. Julia de Funès.
On fait quoi? On essaye de vivre. Hein. On essaye de faire comme dans notre vie privée. Mais évidemment, que ce soit dans la vie privée, on est en société. On est obligé de matiner nos émotions, bien sûr. Mais entre ne pas exploser, se contrôler et puis contrôler véritablement les émotions, il y a quand même une nuance. Et surtout, ne pas culpabiliser en se disant « j'arrive pas à les contrôler, c'est tout à fait humain ». Il faut rester humain, mais pas au sens humain que l'entreprise valorise à tout va et ça devient un poncif, une tarte à la crème, on va remettre l'humain au centre. Ça, moi, j'y crois pas du tout. L'humain, c'est quoi? C'est une singularité. Et la singularité, elle se comprend dans ses émotions particulières, dans sa façon d'être. Mais il faut accepter, et c'est très difficile de l'être, il faut travailler à être authentique. Mais c'est le travail d'une vie.
Aurélie Janté, en quelques secondes.
Oui, moi, je dirais, en fait, une de mes thèses dans cet ouvrage, c'est qu'il faut réaffectiver le monde du travail, c'est-à-dire laisser entrer les émotions, les considérer comme légitimes, et ne s'opposant pas au fait d'être un bon professionnel. Je pense que raison et émotion, ça va ensemble, hein, Damasio l'avait montré déjà, et que donc il faut être dans l'émotion, mais comme dans la raison, ça ne s'oppose pas, parce que c'est aussi s'ouvrir aux autres, au monde, à soi, en restant connecté à soi et à ses valeurs.
Anne-Charlotte Vuccino, vous ne partirez pas de ce studio sans nous avoir donné quelques trucs, un conseil pour bien passer la journée au travail, au réveil, au cours de la journée
Un conseil tout simple pour être bien au travail, c'est tout simplement de faire ce travail sur soi, un peu comme un art martial, avoir une discipline où tous les jours on s'occupe de son corps, on s'occupe de soi, parce qu'on sait que si on arrive au bureau complètement rouillé, on passera pas une bonne journée, et ne pas oublier son corps.
On arrive le matin devant son écran, on fait quoi?
Vous arrivez le matin devant votre écran, vous avez mal au cou parce que vous êtes encore tout rouillé de votre nuit, vous pouvez faire un exercice pour détendre votre cou, vous pouvez faire le chat et lavage qu'on a fait tout à l'heure dans le studio, qui consiste simplement à alterner les flexions avant et les flexions arrière de la colonne vertébrale. C'est tout bête, ça permet de mieux respirer, ça permet de pas avoir des tensions dans
le
trapèze,
le dos rond et le dos cambré.
Mmh. Et c'est vraiment tout bête, mais c'est ce travail sur soi qui doit permettre finalement de ne pas réagir quand on vous insulte, parce que vous allez pouvoir ne pas entrer dans le jeu de l'adversaire et passer une bonne journée avec la manière dont vous pouvez et vous voulez agir, et pas seulement être victime et réagir.
Et la respiration. Alors tout ça est dans le guide Comme un yogis, la méthode yoga pour être bien partout et même au bureau. Alors évidemment, ceux qui ne sont pas au bureau et qui ont des métiers beaucoup plus physiques,
ça marche aussi,
parce que d'ailleurs vous faites aussi d'ailleurs des stages dans les usines. Merci à toutes les trois. Julia de Funès, la comédie inhumaine aux éditions de l'Observatoire avec Nicolas Bouzou. Anne-Charlotte, pardon, ça j'ai déjà dit, Aurélie Janté, les émotions au travail, aux éditions CNRS. J'en profite pour vous signaler que nous serons à Dakar jeudi prochain au Théâtre National. Vous aurez la parole. On parlera de l'enseignement supérieur en Afrique. Le développement des écoles privées est-il une solution à la surpopulation des universités? On vous attend nombreux à 10h, jeudi 29 novembre à Dakar. Demain, 7 milliards de voisins, MeToo et après, comment éviter la guerre des sexes? Débat avec des femmes pas franchement d'accord sur les nouveaux féministes. Merci à toute l'équipe. N'oubliez pas, évidemment, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et le reste. À demain.